leader du parti sénégalais Diissou, Mouvement pour l'espoir et le développement, Dr Ibnou Taymiya Sylla, ministre conseiller spécial du président Macky Sall, s'ouvre à Radio de la Paix. Ce spécialiste des questions du numérique jette un regard sur le développement de cette technologie au Sénégal et en Afrique de l'Ouest en général. Il se prononce également sur l'actualité politique dans son pays, notamment la présidentielle de février 2024, élection à laquelle il est candidat au nom de son parti. Dr Ibnou Taymiya Sylla est l'invité de Jean-Claude Comé dans cet entretien sur la fréquence de la paix.
Amis auditeurs de Radio de la Paix, heureux de savoir que vous êtes nombreux à l'écoute de cette radio. Nous recevons une personnalité sénégalaise de passage à Abidjan qui nous a fait l'honneur de nous visiter ici à Radio de la Paix. Et à l'occasion, nous discutons avec Dr Ibnou Taymiya Sylla. Donc, il est ministre conseiller auprès du président de la République. Il est en charge de l'économie numérique. Monsieur le ministre, bonjour.
Bonjour, monsieur Comé.
Nous vous recevons parce que vous êtes une de ces personnalités africaines, hein, parce que en vous présentant, on voit dans votre curriculum vitae que vous êtes un spécialiste des questions du numérique au Sénégal, justement, c'est vous qui conseillez donc le président Macky Sall dans ce domaine-là. Alors, cet amour pour la technologie, pour le numérique, est né où et quand? Tracez-nous un peu votre parcours.
Oui, l'ingénierie, c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné quand j'étais enfant. Je pense que c'est cette passion que j'ai poussée jusqu'au point où je suis aujourd'hui. Bon, j'ai fait mes études à Dakar, j'ai grandi à Dakar et puis j'ai fait mon baccalauréat à Dakar et puis j'ai un diplôme d'ingénieur en télécommunication en Tunisie. Puis je suis parti au Canada où j'ai fait un master en électronique spatiale et puis un PhD qui est un doctorat en télécommunication sans fil. Et puis j'ai fait un MBA aussi en finance. Et donc, c'est vraiment cette passion de la technologie que j'ai toujours poussée à bout.
Et nous notons qu'avant d'être au service de votre pays, vous avez apporté votre expertise hein, dans des entreprises à l'international, notamment aux États-Unis et bien sûr sur le continent africain aussi.
Effectivement, après mon doctorat en télécommunication, j'ai servi au laboratoire central de Philips où on faisait de la recherche et développement, où j'ai travaillé sur les premiers Bluetooth qui sont sortis. Donc, j'étais jeune ingénieur, ça m'a permis d'acquérir une certaine expertise pratique dans la haute technologie. Après Philips, c'était à Eindhoven, aux Pays-Bas. J'ai rejoint la multinationale américaine Texas Instruments, qui se trouve à Dallas. Là aussi, j'ai travaillé sur différents programme et j'ai été instrumental, pivotal dans certains domaines qui ont permis à la compagnie de se positionner au niveau mondial dans ce secteur-là. Notamment, par exemple, ce qu'on appelle wireless health, ou telehealth, ou télémédecine. J'ai beaucoup travaillé sur des produits de ce genre. Et ensuite, j'ai travaillé pour une autre multinationale qui était beaucoup plus liée à Alibaba et aux autres dans le cadre du Smart Campus et dans le cadre des IoT, c'est-à-dire Internet of Things, l'Internet des objets. Donc, c'est pratiquement toute ma carrière a été dans les multinationales, dans les semi-conducteurs et de la haute technologie. Et c'est après ça que le président Macky Sall m'a demandé de rejoindre son cabinet pour l'aider à vraiment pousser l'écosystème numérique à un niveau quand même que le Sénégal a envisagé.
Alors justement, hein, vous décidez de revenir donc dans votre pays, le Sénégal, pour vous mettre à la disposition du président actuel Macky Sall. Justement, quelles sont les politiques que vous avez aidé à asseoir dans le domaine des numériques par exemple?
Oui, quand je suis venu, par exemple, dans le cabinet du président, il y avait déjà un plan qu'on appelle le Sénégal numérique SN2025. C'était un plan stratégique qui était bien, c'était un bon plan, mais que je trouvais qu'il manquait un peu d'agressivité dans certains domaines. Par exemple, aujourd'hui, quand vous regardez, par exemple, le PIB mondial, la contribution du numérique dans le PIB mondial, c'est autour de 16%. Et bon, le Sénégal a envisagé d'être à 10, 11%. Bon, ce que j'ai trouvé un tout petit peu pas ambitieux du tout. Donc, j'ai essayé de grouiller les choses pour que quand même on puisse avoir un objectif beaucoup plus agressif. Et aussi, j'ai beaucoup aidé dans l'exécution de cette stratégie et en essayant de coordonner beaucoup plus les différents acteurs de cette stratégie parce que la stratégie comporte plusieurs aspects et il fallait quelqu'un quand même qui est un tout petit peu en haut et qui pouvait avoir une vision globalistique de cette stratégie et pouvoir aider à l'exécution. Donc, c'est dans ce cadre-là que j'ai beaucoup aidé. et aussi à attirer beaucoup d'IDE, d'investissements étrangers directs, que j'ai beaucoup attiré, par exemple, en essayant de convaincre certaines entreprises et compagnies étrangères à venir s'installer au Sénégal dans le domaine du numérique.
Alors aujourd'hui, quelle est la réalité du numérique au Sénégal? Est-ce que vous en êtes fier par rapport aux acquis?
Oui, quand vous regardez aujourd'hui, par exemple, le système, vous regardez, vous faites une évaluation du secteur, je pense que nous sommes bien placés, mais est-ce que c'est suffisant? Non, pas du tout. Je pense que quand même, on aurait pu mieux faire et qu'il y a des erreurs à corriger, il y a certains points qu'il faut quand même corriger, mais dans l'ensemble, quand même, l'exécution a été bonne. Mais quand même, il y a certaines choses qu'il faut vraiment corriger afin qu'on puisse avoir des résultats meilleurs.
De manière globale, notamment en Afrique de l'Ouest. Quelle est votre perception en tout cas des efforts dans le domaine donc numérique? C'est vrai, c'est l'ambition de beaucoup de pays de faire en sorte que cette source de l'économie soit vraiment un pilier important. Quel est aujourd'hui votre regard par rapport aux efforts faits?
Non, je pense que quand vous regardez aujourd'hui la Côte d'Ivoire, où j'ai beaucoup d'amis d'ailleurs qui évoluent dans ce secteur, des amis d'université, je pense que la Côte d'Ivoire est en train de faire un excellent travail. Je pense que l'économie numérique prend de l'envol. Le secteur du numérique quand même se développe. Comme dans le cadre du Sénégal, je pense qu'on aurait pu mieux faire. Notamment, par exemple, quand vous regardez, par exemple, au Sénégal, le problème que nous avons une certaine instabilité au niveau du leadership de ce secteur. Parce que quand vous regardez chaque fois qu'il y a un remaniement ministériel, il y a un changement de portefeuille, alors que c'est un secteur qui est tellement sensible et tellement un secteur vital qu'il faut y avoir une certaine stabilité afin qu'on puisse vraiment implanter les résolutions et les stratégies comme il le faut. Donc, je pense que la Côte d'Ivoire est un tout petit peu dans ce sens aussi. Je pense qu'un petit peu de stabilité dans le secteur, au niveau du leadership de ce secteur, pourrait quand même aider à vraiment consolider les acquis que la Côte d'Ivoire a opéré ces dernières années. Mais quand vous regardez d'une manière globale, je pense que la Côte d'Ivoire est en train de faire quand même un excellent travail, qu'il faut quand même, il y a certains réglages quand même qu'il faut opérer ça et là pour être beaucoup plus efficace.
Mais il y a une réalité en Afrique, les gouvernants ne pensent généralement pas global. Est-ce qu'il y a une politique globale, justement africaine, dans ce domaine du numérique pour que tous les pays avancent au même niveau, ces efforts mis bout en bout pour avancer réellement dans ce domaine du numérique?
Non, vous avez absolument raison là, parce que je pense qu'en Afrique, et ça en général, c'est parce que les dirigeants en général, les leaders en général n'apprécient pas vraiment la place réelle de l'économie numérique dans les économies nationales. Et je pense qu'il faut que vraiment ces dirigeants puissent vraiment comprendre les enjeux afin qu'on puisse avoir ce genre de stratégie. Mais je pense qu'il y a le Rwanda quand même qui est en train de faire des efforts dans ce sens, surtout avec la mise en prenant le leadership dans la mise en place de l'Alliance Smart Africa, qui est dirigée par mon ami Lassina Kone.
Oh oui.
C'est quand même un organisme qui est en train de faire un excellent travail et je pense que le Rwanda a beaucoup contribué aussi à faciliter ce travail. Donc je pense qu'aujourd'hui, on voit maintenant, à travers l'organisation Smart Africa, on commence à voir maintenant une consolidation des acquis et puis coordonner aussi les initiatives des différents gouvernants. Parce que sinon, si on veut aller par exemple en solo, on va y arriver, certes, mais ça va prendre énormément de temps. Et je pense qu'avoir un regroupement où on apprend des erreurs et des succès des autres, des uns et des autres, cela aiderait beaucoup les pays africains à pouvoir aller de l'avant et à remplir ce gap qui existe entre nous et l'Occident et les autres pays aussi.
Alors, docteur Ibn Taymiya Sylla, si on vous posait la question en tant que technicien, pour le commerçant, pour ceux qui vous écoutent, l'économie numérique apporte quoi? C'est quoi d'abord et qu'est-ce que ça peut apporter à nos pays?
L'économie numérique aujourd'hui, c'est toutes les activités économiques qui ont pour base ou qui utilisent l'outil, la technologie numérique. C'est-à-dire que c'est toute la production économique qui a pour base l'utilisation des technologies numériques. C'est-à-dire quand on voit les livreurs, par exemple, aujourd'hui, qui livrent, par exemple, des choses, le font sur la base des messages WhatsApp. Par exemple, quand vous voyez, par exemple, la bonne dame qui expose, par exemple, ses tissus ou bien ses produits sur WhatsApp, son statut de WhatsApp, et puis quand même, il y a les gens qui passent la commande. C'est l'économie numérique. Donc, c'est-à-dire que c'est toute cette activité économique que les technologies numériques ont facilité afin que les gens puissent vaquer à leurs occupations.
C'est rentré dans nos habitudes, en tout cas.
Absolument. Parce que moi, je connais une dame avec qui j'ai discuté qui me dit que le WhatsApp, par exemple, lui a permis d'accroître quand même ses revenus à plus de 100%. Parce qu'aujourd'hui, elle met ses produits sur WhatsApp, son statut, et les autres le voient et puis passent des commandes. Et ça fait que ça augmente son chiffre d'affaires. Et Facebook, c'est la même chose. TikTok, c'est la même chose. Donc, c'est toute cette activité économique qui a pour base ces technologies numériques-là.
Nous sommes essentiellement des pays agricoles. Hein. Aujourd'hui, les technologies, le numérique peut aider dans ce domaine-là pour qu'on soit des géants donc dans ce domaine agricole.
Absolument, absolument. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, ça peut nous permettre aux paysans, par exemple, de mieux vendre son cacao ou son arachide. Ça permet aussi de beaucoup mieux négocier, par exemple, de comprendre les coûts. Et actuellement, il y a des applications qui sont là, qui commencent à créer des foires de produits agricoles. Ça permet, par exemple, aux paysans de pouvoir mieux négocier le prix de leurs produits agricoles.
Si vous nous prenez en marche, mes auditeurs, nous sommes avec Ibnou Temia Sila. Il est donc conseiller spécial du président Macky Sall, le président sénégalais. Mais c'est surtout un homme politique, le technocrate est devenu politique. Et vous êtes leader d'un parti, DISO, c'est cela ?
DISO, qui veut dire concertation.
Concertation. Alors, le technocrate que vous êtes a décidé de franchir le pas, l'homme politique désormais. Pourquoi, monsieur le ministre ?
Vous savez, notre engagement politique a pour finalité l'amélioration de la qualité de vie de nos populations. Donc, comment ça a commencé, tout ce voyage-là, comme je dirais, l'engagement politique, c'est un voyage. C'est-à-dire que nous avions un think tank. Un cercle de réflexion. On se réunissait, on discutait des grandes problématiques auxquelles faisait face le Sénégal. Et dans ça, nous avons fait beaucoup de production intellectuelle. Mais en certain moment, nous nous sommes dit que, écoutez, c'est bien d'écrire des productions intellectuelles, de les envoyer, de parler sur les radios et tout. Mais je pense qu'il faut maintenant avoir un programme qu'on va présenter à la population en forme de programme politique pour pouvoir quand même leur proposer un projet de société sur la base de nos productions intellectuelles qui pourra attirer ces populations-là et puis qui éventuellement les convaincre à nous donner la gestion du pays. C'est comme ça que nous avons décidé de transformer ce cercle de réflexion en parti politique et nous l'avons appelé DISO. Pourquoi nous l'avons appelé DISO ? C'est parce que nous avons pensé qu'aujourd'hui, seul le chemin de la concertation pouvait vraiment faire sortir le Sénégal dans la situation dans laquelle il est. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde pense qu'il a le monopole de la vérité. Je pense que ce serait mieux qu'on s'assoie, qu'on puisse discuter et avoir un consensus et avoir un projet de société qui est bâti sur un consensus. Et c'est pour cela que nous avons mis en place DISO, un parti qui est libéral centre-gauche, plus ou moins centriste. Et c'est dans ce cadre-là que nous évoluons et c'est un parti qui est dûment légalement constitué au Sénégal.
Formation politique qui fait partie de la mouvance présidentielle
Oui, vous pouvez le dire ainsi parce que comme le président du parti actuellement est ministre conseiller auprès du président de la République, je pense qu'on ne peut pas travailler dans le cabinet de quelqu'un et puis lui faire des croche-pattes. Voilà, donc bon, on peut le dire ainsi, mais nous avons quand même notre propre ligne de conduite. Et c'est comme une alliance programmatique. Notre alliance avec le président n'est pas quelque chose d'affectif, mais c'est beaucoup plus programmatique. Le président a pensé que nous pouvons apporter quelque chose dans un secteur bien donné. Il a fait appel à nous et puis nous aussi, on a répondu aux devoirs citoyens. Mais s'il y a des positions à prendre, nous prenons les positions qui sont les nôtres, qui ne sont pas tout le temps celui du président.
Oui, mais des fois, vous assumez aussi la politique de Macky Sall, puisque vous faites partie de la grande mouvance.
Vous savez, c'est un peu truc ici, parce que si nous voulons assumer quand même tout le bilan du président, je pense que non, nous ne voulons pas l'assumer. Parce que nous n'avons pas été associés à la gestion de ce pays. Je pense que c'est en 2020.
Mais vous êtes conseiller spécial, bien sûr.
Conseiller spécial dans un secteur bien donné. Chargé de l'économie numérique.
C'est cela.
Donc ça fait une différence entre quelqu'un qui est quand même associé à toutes les décisions. Parce que je me refuse de faire le marketing de quelque chose à laquelle je n'ai pas été associé. Mais que maintenant, quand vous me demandez le bilan de la politique numérique du Sénégal, ça, je l'assume pleinement. Quels que soient les manquements, je l'assume pleinement.
Alors justement, on parle de Macky Sall. Hein, Macky Sall qui, il y a quelques mois, a tranché. Il n'est plus candidat. Il y avait eu un débat autour, justement. Sera-t-il candidat, sera-t-il pas candidat ? Il a tranché. Comment vous avez reçu cela ?
Vous savez, M. Comey, moi, j'ai toujours dit, bien avant que le président ne fasse sa déclaration, que ce débat était un faux débat. Parce que pour un soi-disant troisième mandat, il faut d'abord que l'individu puisse quand même déclarer son désir d'être candidat.
Il laissait entendre ouais. pour les deux secondes.
Oui, mais puisqu'il ne l'avait pas dit ouvertement, ou ne l'avait, ou même si les actes posés peuvent être interprétés dans ce sens, mais il ne l'avait pas encore dit. Et le deuxième point, c'est que même s'il le dit, il faut que la Cour constitutionnelle quand même puisse statuer sur la validité de cette candidature. Et en plus, il faut que le peuple sénégalais puisse valider cette candidature. Donc pour moi, il y avait des conditions qui étaient là et que je me refusais à rentrer dans ce débat. Pour moi, qui était clos, parce que je suis républicain, si la Cour constitutionnelle dit que voilà, le président a droit à un autre mandat, là, je me range derrière cette décision de la Cour constitutionnelle. Et si le peuple sénégalais valide, là encore, je me range derrière la décision du peuple sénégalais. Donc, en tant que républicain, j'ai toujours refusé de rentrer dans ce débat. Pour moi, qui était inutile, qu'on aurait pu se consacrer à la discussion ou au débat de comment améliorer la qualité de vie des populations sénégalaises. Ça aurait été beaucoup plus important.
Alors, mais comment avez-vous réagi lorsqu'il a fait la déclaration solennelle aux Sénégalais?
Non, je l'ai félicité parce que je pense que quand même prendre cette décision, c'est une décision très courageuse et républicaine. Et c'est quelqu'un, je dois le dire, que légitimement, avec le bilan qu'il a eu, le bilan économique qu'il a eu, je pense qu'il a fait des réalisations, même si... Quand même, il y a beaucoup de choses à faire, mais quand même, qu'il y avait un bilan positif. Je pense que quand même, c'est quelqu'un à féliciter dans ce sens-là.
Alors, l'actualité au Sénégal, c'est aussi cette présidentielle qui arrive à grands pas. Et un des acteurs politiques comme vous, c'est M. Sonko, Ousmane Sonko, et qui, bien sûr, est actuellement en prison, mais qui n'a pas caché sa volonté d'être candidat à cette présidentielle. Comment avez-vous apprécié cette situation de suppression sur la liste, ensuite demande de réintégration, et puis la Cour donc, de cassation qui remet le compte à zéro? Quelle est votre appréciation en tant qu'acteur politique, leader du parti d'Isso?
Vous savez, Jean-Claude, être républicain, ce n'est pas facile. Parce que quand on se dit républicain, on est obligé de suivre les lois du pays qui sont, même si on n'est pas d'accord avec ces lois-là. Bon, malheureusement, Ousmane Sonko, c'est un frère, c'est un jeune frère pour qui j'ai beaucoup d'affection. Mais malheureusement, bon, il y a eu des erreurs de part et d'autre qui ont abouti à la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Bon, maintenant, si les lois du pays disent qu'il n'a pas droit à être candidat, je ne suis pas juriste pour débattre ça, mais bon, je me fie aux institutions de la République. Et je vous dis que même si, être républicain, c'est que même si on n'est pas d'accord avec une décision de justice, c'est de se rendre derrière cette décision de justice. Donc, si la justice sénégalaise dit que M. Sonko n'est pas éligible, bon, là, je ne peux que me ranger derrière cette décision, quel que soit mon avis personnel là-dessus.
Mais donc, c'est la même justice aussi, M. le ministre, sans vous couper. La même justice, en tout cas, un acteur de cet appareil judiciaire qui met donc en cause une décision prise avant de son retrait de la liste. Déjà, ça ne fait pas cacophonie, bon, selon vous?
Oui, mais vous savez, le processus judiciaire, on le connaît. Il y a des décisions de justice qui sont rendues. Il y a des fois c'est validé en appel ou c'est cassé en appel pour aller à la Cour suprême. Donc il y a toute une procédure qui est là et que je pense qu'il faut attendre à ce que la Cour suprême donne son avis définitif. Et une fois que la Cour suprême donne son avis définitif, bon, j'ai dit, même si mon opinion personnelle ne compte plus, c'est seulement que je dois me ranger derrière cette décision de justice, quelle que soit mon opinion personnelle, parce que le fait que je me suis déjà déclaré républicain, je ne peux pas remettre en cause les fondements de la République.
Justement, en tant que républicain, des observateurs aussi souhaitent que pour l'apaisement, pour la préservation justement de cette démocratie sénégalaise, qu'il faudrait mettre bas la terre, penser à calmer le jeu, éventuellement avec une possibilité de libération de Sonko, permettre à tous ceux qui voudraient être candidats d'être candidats. Quel est votre avis, monsieur le ministre?
Bon, vous savez, il y a l'avis personnel, l'avis, il y a des décisions politiques et il y a des décisions judiciaires. Bon, maintenant, je suis d'avis qu'aujourd'hui, que tout candidat, tout Sénégalais désireux d'être président de la République puisse en avoir la possibilité de se présenter devant le peuple. Bon, maintenant, il faut que ça soit aussi régi par des lois du pays, comme je le dis, en tant que républicain, parce que nous sommes dans une république et si les lois ne sont pas respectées, appliquées comme il le faut, bon, on risque de tomber dans le chaos. Mais maintenant, il faut que aussi ceux qui sont appelé à administrer et à exécuter ces lois le fasse dans les normes et dans ce qu'on appelle dans la justice. Parce que vraiment, on ne peut pas avoir une justice biaisée. Donc, c'est pour ça que je dis que vraiment, je me range toujours derrière cette décision de justice. Mais il faut quand même que la loi soit appliquée dans toute son impartialité.
Justement, le mot est laissé dans toute son impartialité. Est-ce que pour vous, la justice est assez indépendante pour prendre dans le sens de l'intérêt du Sénégal une décision qui va calmer les choses?
Vous savez, c'est très difficile de diriger un pays. Parce que quand on dirige un pays, vous connaissez ce que le commun des Sénégalais connaît, mais vous connaissez aussi ce que le commun des Sénégalais ne connaît pas. Donc, il y a certaines décisions. C'est pour ça que je suis très souvent, je suis très prudent quand je critique le président de la République sur certains aspects. Parce qu'il y a des choses que je ne maîtrise pas, que lui, il maîtrise. Il y a des informations que lui, il a, que je n'ai pas. Donc, pourquoi des choses, j'ose espérer que ça n'a pas été pris à la légère. Donc, ce serait bien aujourd'hui si tous les Sénégalais désireux quand même de se présenter puissent avoir cette possibilité. Mais aussi, si par exemple, quelque part, il y a une décision qui vient, par exemple, bloquer ça, je pense que quand même, il faut quand même se dire que ceux qui sont en charge d'exécuter les lois ont leur raison pour le faire.
En tout cas, cette présidentielle, c'est dans le mois de février, n'est-ce pas, 2024. Est-ce que vous décidez d'être candidat ou votre parti présentera un candidat?
Absolument. Mon parti a décidé que je vais me présenter pour les présidentielles de 2024.
Donc, Dr. Ibnou Tamiya est candidat.
Absolument.
Conseiller absolument. Du président Macky Sall. Macky Sall qui est un candidat et vous êtes candidat.
Oui, vous savez, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai dit ma collaboration avec le président de la République, elle est plus programmatique qu'affective. Donc, c'est-à-dire que je travaille dans un secteur bien donné et je donne le mieux de moi-même dans ce secteur et je serai loyal au président jusqu'au jour où il rendra les commandes de ce pays. Et je ferai tout ce que je pourrai pour le Sénégal. Mais cela ne m'empêche pas d'avoir mes convictions personnelles pour lesquelles je demande à ce qu'on me donne le Sénégal pour que je le gouverne. Donc, le fait d'avoir exprimé ma candidature ne veut pas en aucun cas que ma loyauté envers le président dans le cadre du travail que nous sommes en train de faire est remise en cause. Mm-hmm. Absolument pas.
Mais donc, qu'est-ce qui n'a pas marché que vous, en tant que candidat à la présidentielle, vous voulez améliorer par rapport à tout ce que vous avez vu en tant que Sénégalais?
Vous savez, comme je l'ai dit tout à l'heure, le président Macky Sall, il a un bilan quand même très honorable. Je pense que ça, on ne peut pas le nier. Mais le pays, aujourd'hui, a besoin d'un changement. Nous sommes arrivés à la croisée des chemins où le pays, cette jeunesse qui est là, a besoin d'un changement, a des aspirations et des désirs qu'ils veulent se voir réaliser et qu'ils n'arrivent pas à faire. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il y a un changement qui doit s'opérer. Et ce qui se passe, c'est que les personnes aujourd'hui qui sont émotionnellement liées à ce système ne pourront jamais opérer ce changement. Il faut quelqu'un qui est venu de l'extérieur, qui a eu le temps d'observer de loin le système et de l'observer de près pour pouvoir aujourd'hui opérer les changements qui se posent. Le Sénégal a besoin aujourd'hui d'un leader, transformationnel capable de mettre en place une vision et de l'exécuter dans toute sa rigueur afin que quand même nous puissions quand même régler tout ce problème que nous avons aujourd'hui.
Oui, ce que vous proposez au Sénégal, hein?
Oui, ce que nous proposons au Sénégal, c'est d'abord un projet de société sur 4 axes. Le premier, c'est quand même un nouveau modèle de développement économique. Le deuxième axe, c'est quand même il faut un réaménagement de notre architecture institutionnelle aujourd'hui. Et le troisième, c'est une revalorisation de notre capital culturel. Et le quatrième pilier, c'est la sécurité de notre pays et des citoyens, parce que par les temps qui courent, rien que dans le Sahel, par exemple, nous avons vu que la sécurité pose un gros problème. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut que quand même qu'on puisse avoir une nouvelle vision de la sécurité afin que quand même cette sécurité qui est pour protéger la nation puisse s'effectuer le plus correctement possible.
C'est en tout cas l'une de vos offres, hein, donc aux Sénégalais, puisque vous êtes candidat à la présidentielle donc en 2024, en février, hein, pour être précis. Et nous recevions pour vous Dr Ibnou Tamiya Sylla. Il est donc ministre conseil spécial du président sénégalais Macky Sall. Et se prêter à nos questions. Docteur Ibnou Tamiya Sylla, je vous remercie.
Merci beaucoup, Jean-Claude Comé.
C'était l'entrevue